Et au Québec, c'est Thierry Larose.
Tout devient tellement précieux quand il y en
Mon nouvel album Sprint est maintenant disponible en magasin et sur toutes les plateformes d'écoute.
Je me croirais quand je la verrai. Est-ce que tu sens ton cœur battre dans ta poitrine?
C'est le printemps à l'Impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du petit Béliveau. Le 14 avril, c'est Lou-Adrien Casti qui va t'impressionner avec sa présence scénique envoûtante. Viens voir Petit Béliveau et Lou-Adrien Casti les 13 et 14 avril à l'Impérial Belle. Billets en vente au impérialbelle.com.
Passe d'abord, c'est bien fait. Le tir est le but!
Les Remparts de Québec reçoivent l'Océanique de Rimouski dans le cadre d'une série aller-retour ce vendredi 24 mars à 19h. Rejoignez Ray Cloutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts Océanique, vendredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance que l'on vous accueille un lundi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 pour entendre les auteurs et les autrices de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matin.
Il est 4 heures.
Bonjour et bienvenue à cette édition de Chérie, j'arrive. On est le jeudi 23 mars. Il est 16h02. C'est Rosalie Bocage. Je vais être avec vous jusqu'à 17h30. Aujourd'hui à l'émission, on va voir toutes sortes de belles choses. À 16h15, on va voir un petit topo sur le festival Regard qui a commencé hier et qui se poursuit jusqu'au 26 mars. On va aussi recevoir en entrevue Jordan, l'artiste musical qui va faire un show au Pantoum demain soir. Et nous aurons une paire de billets à faire tirer. Donc restez à l'écoute, je vais donner les informations bientôt pour ça. Et puis une petite chronique aussi de culture, mais culture à série culture. Donc, on va parler d'érable et de cabane à sucre avec Maud Mound de l'Érablière quelque part. Et puis, on va avoir à 17h Alex Tremblay-Lamarche qui va nous faire une chronique sur trois ouvrages traitant du milieu universitaire à l'occasion de la grève des professeurs. Et puis nous, on va commencer en musique ensemble avec Promenade de Ariel Soucy.
Dans une éclaircie de bois, j'ai par accident ramené un remède collé dans les fibres de mon linge. Mais mon chaud rougi, gêné par cette visite imposée, mais se sont dit que c'était bien.
Do do do.
C'était doux, c'était pour commencer l'émission, c'était la chanson Promenade de Ariel Soucy qui est parue cette semaine, je crois bien. Et on va poursuivre en chanson, en musique, avec Chandail Pantalon, un titre de Après l'asphalte. c'était Chandail Pantalon, un titre de Après l'asphalte. Je vous invite à aller sur YouTube parce que ils ont, Après l'asphalte, sorti le vidéoclip de cette chanson là, il y a 6 jours seulement. Donc, vous écoutez toujours Chérie, j'arrive. Il est 16h11. On est le 23 mars. C'est moi, Rosalie Bocage, qui est en votre compagnie jusqu'à 17h30 en remplacement de Madame Desmeules. Et puis, je le disais plus tôt, là, en début d'émission, à 16h30, on va recevoir en entrevue Jordan, une artiste qui fait dans le indie pop et qui est basée à l'île d'Orléans. Elle va être en spectacle demain soir au Pantoum. Nous allons faire tirer une paire de billets, donc restez à l'écoute de l'émission. Je vais donner les infos pour ça très bientôt. Et puis, on va aller écouter une chanson de Nicolas Gému qui sera en première partie là, de Jordan au Pantoum demain. Sa dernière chanson, son dernier single qui est paru, ça s'appelle Rue Tebeuf.
Que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus, éteint aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vents emportent, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. C'est pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Pauvre sens et pauvre mémoire, moi Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente, et droit au cul qu'en bise vente. Le vent me vient, le vent m'évente. L'amour est morte. Ce sont amis que vents emportent, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Alors, c'était la chanson Rue de Bœuf de Nicolas Gému. Nicolas Gému, je le rappelle, qui va être en première partie de l'artiste Jordan demain soir au Pantoum. Et nous allons maintenant rejoindre Émilie Rioux. Émilie, est-ce que tu m'entends?
Bonjour, Rosalie.
Ah, bon. Oui, là maintenant, je t'entends. Donc, Émilie, qui est avec une partie de l'équipe de Chiz, qui s'en va voir, s'en va à Chicoutimi, en fait, voir le Festival Regard.
Effectivement, c'est là qu'on s'en va, qu'on est à 2 heures de route, alors souhaitez-nous bonne chance dans cette température, ma foi, un peu sièche. Mais on est parti donc pour ce beau week-end du côté de Chicoutimi pour Regard, qui en est à sa 27e édition cette année, 27 ans, 27 éditions, en fait, espérons. trace. Est-ce que tu es déjà dans le fait du festival de la Rosalie?
Mais oui, j'ai entendu parler du festival depuis plusieurs années. Malheureusement, j'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais ça ne saurait tarder.
Mais écoute, c'est un festival qui est parmi les plus importants, sinon le plus important, le festival de courts-métrages en Amérique du Nord. C'est quand même pas rien lorsqu'on pense que c'est un festival qui n'a non pas lieu à Montréal, mais bien à Chicoutimi, au Saguenay. Ça a été bâti en 1995 par une gang de fans de cinéma et on doit à regard, entre autres, l'effort de nombreux réalisateurs de cinéma québécois qui souvent commencent leur carrière par le court-métrage. On peut penser au président de Francis Leclerc, notamment, et tous les Denis Villeneuve aussi de ce monde qui ont commencé leur carrière avant de faire du long-métrage, souvent par la voie du court-métrage, du moyen-métrage. Et au Québec, on n'a pas énormément de vitrines pour ce genre de films-là, hormis le circuit des festivals. Alors, c'est la raison pour laquelle ce festival-là est si important pour le cinéma québécois, mais aussi international, parce que c'est pas seulement un festival local, c'est un festival vraiment international de court-métrage. Alors, il y aura du monde de partout à travers les quatre coins de la planète qui vont être présents à Chicoutimi en fin de semaine. C'est quand même assez hot.
Mais oui, vraiment. Puis là, vous, l'équipe de Schist, ben vous allez aller voir des représentations, faire des entrevues peut-être?
Ben, j'espère. oui, c'est le plan, en fait. Pour savoir si c'est bon à regard, il y a une sélection officielle. C'est-à-dire qu'il y a des concours. Donc, les films qui sont présentés là sont en compétition. Il y a un jury qui est sur place pour aller voir tous les films et ensuite ben, annoncer un verdict à la fin du festival le dimanche. Et nous, l'équipe de Schist, on va faire un petit jury à nous, le bien sympathique. On va aller voir des films et vous pourrez lire sur le schist.ca et également sur les ondes de Chérie d'Arrive la semaine prochaine. Quel sera notre verdict personnel? Quels seront les films coup de cœur qu'on va être allé voir? Parce que c'est des films qui souvent n'ont pas été vus ailleurs. C'est souvent des grandes premières également. Alors, ça va être une grande chance, un grand privilège pour nous de pouvoir aller jeter ce premier coup d'œil à des films-là. Pourquoi aller voir d'autres cultures cinématographiques, aller explorer d'autres manières de faire des images, de faire du cinéma, de dépayser vraiment, je pense que c'est ce programme pour regard. Et on essaiera donc d'aller à la pêche aux entrevues ici et là, parce qu'il y a Florence Lompré, notamment, que vous connaissez sans doute à la maison, qui est une comédienne quand même très connue à la télé et au cinéma québécois, qui est la porte-parole cette année de regard. Alors, croisons les doigts pour essayer de l'attraper pour qu'elle nous parle un peu de son lien à elle avec le cinéma. Sinon, vos amis à regard, cette année, il y a une nouveauté super intéressante qui est un programme de court-métrage entièrement autochtone. Et ça, c'est quand même très bien vu dans la programmation et dans l'air du temps. Alors, ça sera vendredi, je ne me trompe pas, où il y aura un programme entièrement consacré donc aux discussions et productions autochtones. Ça, on aime, c'est en collaboration avec le festival qui est à Montréal et qui a été, on s'est dit, curateur de cette programmation-là. Il y a un volet 100% région. C'est seulement des films, tu l'auras de dire aux amis qui sont filmés en région, en territoire, qui sont plus éloignés. Ça aussi, ça nous fait voyager un peu. Et il y a aussi une catégorie qui s'appelle tournée à tout prix. Je te laisse bien te dire ce que ça veut dire, ça, les films tournés à tout prix.
Avec un très petit budget, peut-être?
Oui, ça, tout en prix, c'est exactement ça, tournée à tout prix. C'est pas les films de petit budget, mais que finalement, on s'en rend pas compte vraiment. Lorsqu'on regarde le film, alors c'est des tours de force faits par la magie du cinéma. C'est aussi un programme qui m'intéresse pas mal. Souvent, mais toutes les compétitions officielles vont nous permettre de voir des films de différentes longueurs et de différents styles, du documentaire, de l'animation à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment puissant, je pense, pour ce qui nous attend en fin de semaine. Mais là, Rosalie, je t'entends penser à travers les ondes, puis t'aurais le goût d'y aller toi aussi, hein?
Ben oui, j'aurais le goût d'y aller aussi. Puis là, ça, tu dois m'entendre penser plus loin. Est-ce qu'il y a une programmation en ligne que les gens peuvent voir?
C'est ça, je t'entendais tellement penser. Ah. C'est exactement là que j'allais t'amener. J'ai même des recherchistes de fantômes dans la voiture en ce moment qui me soufflent des choses à l'oreille. Alors, ça me permet de te dire que du 27 avril au 9 mai prochain, il y aura un volet en ligne. Et c'est 45 $ seulement pour pouvoir acheter un laissez passer, avoir accès à l'entièreté de la programmation en ligne à la maison. Alors, c'est vraiment à ne pas manquer. Dès la fin, finalement, de regard à Chicoutimi, il y aura tout ce volet-là en ligne qui va être disponible pour les gens à travers toute la province de Québec. Alors, pas besoin d'être dans les environs du Saguenay. Vous pourrez donc, sans prendre le risque de traverser le parc à travers la tempête.
Oui, comme vous.
Ouais, exact. Pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins ambitieux, vous pourrez voir regard en ligne pour 45 $ à partir du 27 avril jusqu'au 9 mai. ça va sans doute valoir la peine. Alors, les conseils et autres suggestions qu'on vous fera à la fin du festival, peut-être ça vous donneront envie d'acheter votre adapté par ça à 45 $ pour regard en ligne.
Ben oui, c'est clair. Mais on va là-dessus, on va vous laisser conduire prudemment jusqu'à Chicoutimi. Il vous reste une couple d'heures à faire quand même.
Quelques coins de rue, on est rendu à Belvédère. Alors ça, mais on est à quelques coins de rue du Vaudreville de Chicoutimi, je le sens. Donc, passez un beau week-end sur les ondes. Surveillez nos réseaux sociaux sur Instagram, notamment à commercial 6943. Et vous pourrez peut-être quelques manières de vous suivre d'une manière spéciale à Chicoutimi.
Ben parfait, merci beaucoup Émilie Rioux, puis bonjour à toute l'équipe et rendez-vous bien.
Bye bye!
Merci, salut. Et nous, ben, on s'en va en musique écouter Moteur, Super Moteur de Tom Chiquan.
Ma moto, je veux réparer ma moto. Mon exhaust fume comme des Marlboro. Je kickstart ma vie, même si à l'horizon c'est gris, parce que je veux partir avant la pluie. Ma moto, je veux réparer ma moto. Je suis peut-être tombé d'un peu trop haut. Je voudrais revoir les montagnes, shiner à tête feu de mince, puis retrouver mon équinoxe. Mais j'ai un Black Lake sur le cœur, puis j'ai un léger goût d'ailleurs. Veux plus de pad break, heartache, faire face au vent, voir un peu dehors, puis twister la poignée du moteur Spark Sport. Je veux réparer ma moto. Le garage m'a prescrit des narcos. Mettre ça dans un cagaz, ça saute comme un obus. Ça met des étoiles où y'en a plus. Mais j'ai un Black Lake sur le cœur, puis j'ai un léger goût d'ailleurs. Je veux plus de pad break hard. Face au vent, voir un peu dehors, puis twister la poignée du moteur Spark Sport. Oh, mais j'ai un Black Lake sur le cœur, puis j'ai un léger goût d'ailleurs. Je veux plus de pad break, heartache. Face au vent, voir un peu dehors, puis twister la poignée du moteur Spark Sport.
C'était Moteur, Super Moteur de Tom Chiquan, une chanson pour aider nos collègues de Chérie J'arrive et de Chiz qui sont en direction du Festival Regard à Chicoutimi dans la tempête. Et je vais recevoir dans quelques minutes l'artiste Jordan qui va être en spectacle demain soir au Pantoum. Donc on va écouter une chanson de Jordan juste avant de la recevoir en entrevue. Mais je vous ai dit, chers auditeurs et chères auditrices, au début de l'émission, l'émission que j'allais faire tirer une paire de billets pour ce spectacle. C'est bien vrai. Donc, la manière de participer, je vous donne le numéro de téléphone du studio ici à Chiz et on prendra le premier appel qui va se manifester. Donc, le numéro de téléphone pour nous appeler à Chiz pour gagner cette paire de billets de Jordan pour demain soir au Pantoum. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 418-656-2215. Je répète, le 418-656-2215. Donc, appelez en studio si vous voulez gagner une paire de billets pour aller voir le spectacle de Jordan demain soir au Pantoum. Et on va écouter ensemble le titre « Shoot » juste avant d'aller la rejoindre par téléphone.
La nuit prend toute la place. Laisse-moi dessiner les lignes de ta face, le bout de mes doigts qui tremblent, de vouloir tracer chaque parcelle de ta peau. Prends-moi comme le vertige qui nous prend au ventre en haute voltige. Je deviendrai un trapèze à défaut de dire combien j'ai envie qu'on se plaise. Chemin privé où je t'attends bien caché. Shoot-moi en plein cœur.
Show me what you can do.
T'as rien qu'un coup. Faut pas me manquer ou ça sert à rien du tout. Shoot. Laisse faire les bonheurs. Les heures passent sur tes joues. T'en fais surtout pas, on est immortel après tout.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
À Conduite Antisportive, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque. À Conduite Antisportive, on attaque les zones profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite antisportive, mardi et jeudi, de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou. C'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchy.
Écoutez, chérie, j'arrive, il est 16h31, c'est moi, Rosalie Bocage, qui va être avec vous jusqu'à 17h30 aujourd'hui. Et on rejoint par téléphone l'artiste Jordan. Bonjour Jordan, est-ce que tu m'entends? Allô!
Ça va bien?
Oui, et toi?
Oui, merci beaucoup de me recevoir.
Mais ça fait plaisir. Donc, est-ce que tu es un peu fébrile à l'idée de faire un spectacle demain au Ventoum?
Ben oui, vraiment. Puis ça fait, je regardais ça dans les archives de ma vie d'artiste. Ça fait 8 ans que j'ai pas joué au Pantoum.
Wow, il y a eu le temps de.
Dans le cadre d'un autre projet, là. Donc oui, super fébrile. J'ai ben hâte.
Ça a eu le temps de changer là, comme configuration de salle en 8 ans.
Oui, c'est même pas dans la même salle. C'est une salle qu'il y avait pas à l'époque, là. Donc ça va être comme une toute nouvelle expérience pour moi. Là.
Ben c'est ça. Donc si tu vas, j'imagine, jouer beaucoup les chansons de ton album Reine de papier qui est paru en 2022.
Oui, c'est ça exactement. C'est toutes les chansons de Reine de papier. On vient de monter un spectacle en full band. Fait qu'on va être 4 musiciens sur scène. C'est des belles chansons très investies qui parlent de féminisme, d'espoir, puis de belles thématiques comme ça.
Mais c'est ça, tu habites maintenant à l'île d'Orléans, comme tu es une des musiciennes et musiciens qui habitent l'île d'Orléans. Il y a Simon Kearney, Philbourg, vous commencez à être une petite communauté là-bas. Est-ce qu'il y a...
Oui, ben, je pense que c'est pas mal tout nommé.
Ben oui, c'est ça, mais j'ai l'impression non, que vous allez en faire venir d'autres. Là.
Ben oui, ben, c'est tellement le fun. C'est tellement à côté aussi, c'est ça. On est vraiment dans un monde à part, mais à 2 secondes d'ici, là, donc... C'est vraiment top.
Est-ce que tu sens que ça a influencé un peu l'écriture de tes chansons depuis que tu as déménagé là?
Oui, bien certainement. Puis surtout cet album-là, Reine de papier, je l'ai composé au complet là-bas. Puis on l'a même enregistré chez moi à l'île d'Orléans. Donc il y a quelque chose, je pense, dans le fait de voir loin puis d'avoir beaucoup d'espace qui est bien inspirant. Puis ça s'entend dans les chansons, il y a beaucoup d'images de nature, il y a beaucoup... de lumière aussi, puis je pense que c'est pas anodin.
Puis ouais, ça aide peut-être aussi à se recentrer sur soi un peu, puis à décider vraiment où est-ce qu'on s'en va
oui,
dans une direction musicale.
Ça aide à prendre le temps, quand on voit loin. Là. Ouais. Je suis très tranquille chez moi, donc ça aide à être tranquille pour composer, pour créer, pour enregistrer, puis ça s'entend, je pense.
Ça s'entend, mais oui, effectivement, ça s'entend sur cet album-là. Il y a quand même des moments très planants. Puis, donc, cet album-là qui a été fait en 2022, qui marque quand même pour toi un tournant, je crois, dans ton carrière, parce que tu travailles avec une équipe différente depuis.
Oui, exact.
Puis, est-ce que, donc là, depuis la sortie de cet album-là, est-ce que tu as d'autres chansons qui sont en chantier?
Oui, j'ai commencé à composer d'autres chansons. C'est sûr qu'il y a beaucoup de temps... À promouvoir ces chansons-là. Puis heureusement, je suis encore... je suis pas tannée de jouer. Vraiment pas. J'ai pas eu beaucoup de spectacles. Mais là, ça va être plus cette saison-ci. Cet été, l'automne, là, on s'en vient avec une vraiment belle série de spectacles pour Reine de papier. Donc, les efforts sont mis là-dessus. Mais c'est sûr que, veux pas, il y a des idées qui arrivent, des nouvelles chansons qui se composent, des nouvelles thématiques. Fait que oui, ça demeure actif au niveau de la création, mais surtout au niveau de la promotion de ça.
Ouais, c'est beaucoup de travail, là, clairement, puis on s'étonne pas que ça n'a pas beaucoup joué dans la dernière année, parce qu'il y a eu beaucoup de reprises de pandémie et tout
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Mais là, il y a quelque chose de vraiment cool qui se dessine. Plusieurs spectacles un peu partout au Québec. Je suis allée faire aussi de la représentation en Europe, en France... En janvier, donc il y a des belles avenues qui s'ouvrent là, pour cet album-là, puis ceux qui vont venir après.
Ah wow, c'est fun à entendre ça, vraiment. Ouais, c'est toujours agréable à entendre. Puis en première partie, ben il va y avoir Nicolas Gému. Est-ce que c'est la première fois que vous allez partager une scène?
Oui, c'est la première fois. Puis en fait, c'est pas vraiment une première partie. Il faut vraiment le voir comme un plateau d'eau.
Ok, là. C'est un plateau d'eau.
On est vraiment deux noms. On va jouer la même durée. C'est juste que ça donne à jouer avant moi.
OK, j'avais mal lu sur la publication du Pantoum. Ouais.
Mais non, c'est une première fois, puis je suis bien contente de ça parce que moi, je ne le connais pas encore personnellement, mais j'aime beaucoup sa musique, donc je pense qu'on va pouvoir faire vivre de quoi de bien intéressant au public qui va être là.
Ouais, mais j'ai l'impression là, que vos deux univers vont vraiment bien se marier. Là.
Oui, quand ils m'ont proposé le nom, ça me semblait évident là, que ça allait être une belle soirée, ouais.
Ouais, puis c'est donc ça va être dans la salle en bas du Pantoum ou la plus petite salle, est-ce que tu sais?
La salle en bas du Pantoum.
OK, ouais. OK. Ben écoute, c'est génial, puis avant quand on s'est appelé en fait pour te faire venir en entrevue ici, tu m'as dit, je t'ai demandé s'il y avait une chanson que tu avais envie qu'on fasse jouer en particulier. Tu m'as dit la chanson Shoot que jouée juste avant le bloc publicitaire. Est-ce que tu voudrais me dire un peu qu'est-ce qu'elle représente pour toi, puis pourquoi c'est représentatif, tu penses, du spectacle?
Ben pour moi, c'est une chanson qui est beaucoup dans le jeu, dans l'amusement. C'est une chanson avec laquelle je suis quand même allée loin dans le changement stylistique. Là, on parlait tantôt à quel point le nouvel album a été transformateur pour moi. Ben, c'est non seulement à cause d'une nouvelle équipe, mais beaucoup à cause d'un nouveau style de musique, moi, qui était plus dans le folk avant. Puis là, on est vraiment dans quelque chose de pop, les sons des années 50 un petit peu. Je pense que c'est une chanson qui est représentative du spectacle parce qu'il y a quelque chose de ludique et en même temps de bien fait, selon moi, de contemporain. Puis je pense que ça va être ce genre de soirée-là. Donc, ceux qui ont aimé la chanson vont certainement aimer le spectacle quand même.
C'est clair. Ben on va se laisser, puis on va aller écouter Appel manqué. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot sur cette chanson-là, juste avant?
Oui, ben oui, certain. C'est une chanson, en fait, qui est un peu différente des autres en termes de thématiques. Les autres parlent beaucoup de blessures, d'histoire de femmes et tout ça. Puis celle-là parle d'une amitié, en fait, que des fois on perd de vue, puis on se rend compte à un moment donné qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe dans la vie d'une amie, puis on a le goût de la retrouver. Donc c'est vraiment ça, cette chanson-là, cette envie-là de se remettre à jour avec des personnes qui sont importantes pour nous, puis qu'on a des fois laissé de côté pour plein d'autres raisons.
Ben voilà. Parfait. Ben merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, Jordan. Puis je rappelle aux auditeurs et auditrices que vous pouvez gagner une paire de billets pour aller voir le spectacle. Et pour ce faire, ben il faut appeler au 418-656-2215. Donc 418-656-2215. Merci beaucoup, Jordan, et bon spectacle demain.
Ben merci. Puis même si vous gagnez pas, venez pareil. Je pense qu'il reste des billets à vendre. Donc, ça serait plaisant d'être une belle grosse gang demain.
Ben oui, on va souhaiter que tout le monde y aille.
Bon, ben super. Merci beaucoup. Puis à la prochaine.
Merci. Au revoir.
Bye.
Je m'en suis voulu de presque plus te voir. J'ai-tu lâché ta main en prenant mon élan? Des nouvelles couleurs au bout de tes histoires. On fréquente sans savoir les mêmes lieux communs. J'ai empilé les retours, me poussait mes rêves. On en vient rapidement, plus savoir où aller. Toi tu vis l'amour, puis notre histoire s'achève dans le silence des appels.
tal vez un poro la vihuel y un insan y lo ries y un san de bani no cho voy a pasar y bella y mon bes tingo my even an wap oh oh solo va bi wel inyu min kan mi long yes inyu min kan mi bon bes palal bes abi wo umie abi wo abi weli inyu li ten ches ni ba kai ri ni ri yon mu manda ma ya mamba ri ni nyai Torello
une chanson de Blik Bassi sur les ondes Chérie J'arrive 94.3. Vous écoutez Chérie J'arrive, donc jusqu'à 17h30 avec moi, Rosalie Bocage. Et donc Blik Bassi, un artiste du Cameroun qui sera au Festival d'été de Québec sur la scène Hydro-Québec. Donc, si vous n'avez pas réussi à acheter un laissez-passer pour le Festival d'été de Québec parce qu'ils se sont vendus en 2 heures, sachez que vous pourriez aller voir l'artiste que vous venez d'entendre à la place de l'Assemblée nationale, juste devant l'Assemblée nationale. Et puis, Chérie J'arrive, c'est votre émission de culture, mais aussi quand on parle de culture, on peut aussi parler d'agriculture. Et là, on va parler d'acériculture avec Maude Mound, qu'on a rejoint par téléphone. Maude, est-ce que tu m'entends?
Oui, allô Rosalie.
Salut, ça va bien?
Oui, ça va super bien, et toi?
Ben oui, ça va bien. Acériculture, pour les auditeurs et auditrices de Chiz, qui peut-être ne seraient pas familiers avec le terme, qu'est-ce que c'est, Maude?
L'acériculture, en fait, c'est la production de sirop d'érable, de produits de l'érable fait à partir de l'eau qu'on va extraire de l'arbre à un moment précis de l'année, donc au printemps. Peut-être aujourd'hui, ça a l'air moins printemps, mais d'habitude, à ce moment-ci de l'année, ça coule.
Puis là, présentement, est-ce que ça coule?
Non, ça coule pas. Ben en fait, on a besoin d'avoir des degrés là, idéal là, pour que ça coule un érable. Donc c'est normalement là, un -4 la nuit, puis un 4 le jour, là, ça fait que y a une pression dans l'arbre qui se crée, puis là, ben l'eau coule, la magie se fait. Mais quand c'est des températures trop froides ou trop chaudes, ça coule pas. Comme aujourd'hui, il fait trop froid, il y a pas de soleil, fait que les érables, ils dorment.
Ils dorment. Puis, ben, c'est ça, monde. T'as plusieurs chapeaux. T'es très bien implanté dans le quartier Saint-Sauveur, dans la vie de quartier du quartier Saint-Sauveur. T'as une entreprise de champignons, la botte champignonnière. Mais moi, pour t'avoir vu depuis quelques années, à chaque printemps, ben, toi et David, vous partez dans le bois parce que vous allez courir les érables que vous appelez. Puis j'ai eu la chance d'aller voir votre terre là-bas, puis ça, vous le faites encore de manière artisanale, en fait.
Oui, ben c'est ça. En fait, nous, ça a commencé, notre épopée a commencé il y a 4 ans, mais moi, depuis que je suis née, en fait, je vais à cette érablière-là. C'est l'érablière de mon arrière-grand-père qui est construit sur la forêt là-bas, puis c'est une terre à la base agricole avec une petite forêt derrière. C'est là que se trouve la cabane à sucre. Puis ben au départ, ça a été mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon oncle. Puis nous, depuis 4 ans, on a commencé là, à trouver l'aventure plus responsable, si on veut. Là. C'est moi puis David qui s'occupait de la cabane, des érables et tout. Puis on y va vraiment à la chaudière. Donc on est vraiment, comme tu dis, là, courir les érables en tracteur avec un poêle à bois pour chauffer l'eau d'érable. Ouais.
Puis ce qui se différencie, admettons, du type d'acériculture qui se fait présentement et le vôtre, ben corrige-moi si je me trompe, mais beaucoup d'érablières maintenant ont des tuyaux bleus qu'on peut voir, puis l'eau est acheminée là-dedans, tandis que vous, là, c'est vraiment la chaudière qu'il faut aller chercher et ramener pour faire bouillir, en fait, l'eau.
Oui, exactement. Puis en fait, tu sais, le côté artisanal de faire du sirop d'érable, là, c'est vraiment plus à petite échelle aussi. Puis tu sais, tout ce qui est les chaudières d'eau d'érable, ben en fait, c'est notre réservoir naturel qui est accroché à l'arbre. Puis ben c'est ça, on va les chercher à bras. Donc c'est un beau moment là au printemps pour inviter les amis. C'est un moment de rassemblement aussi. Quand il fait moins la neige est moins belle en ville, les amis sont contents de venir nous aider, puis c'est une belle corvée à faire ensemble dans le bois. Puis ça différencie aussi des types de plastique. Il y a plein de goûts qui va être différent. Il va avoir vraiment une texture différente aussi, le sirop d'érable, vu la transformation qui est pas la même que de façon plus mécanique, puis de façon plus usine, si on veut.
Mais puis quand vous invitez des gens là comme ça, une journée de printemps, mettons, où ça coule, là, ça ressemble à quoi une journée dans une érablière plus de type traditionnel?
Ben en fait, quand on commence, on vit vraiment dans le mode de la nature. Là. Nous, quand on va dans la forêt pendant le printemps, là, on est là justement là, 2 mois, puis on vit en mode au rythme de la forêt. Donc on est moins dans le qui-vive de la ville. C'est plus au ralenti, mais c'est beaucoup plus du travail physique. Fait que c'est vraiment là, le matin, on se lève, on commence à partir le boiler où l'eau commence à bouillir pour faire le sirop. Puis quand la gang arrive, là, tu sais, souvent nos amis de Centre de Québec, ça, ils arrivent vers 11h. Bon, mais on commence à faire une corvée de courage d'eau d'érable dans la forêt. On a 800 entailles en montagne dans les Appalaches. Donc c'est quand même un beau une belle superficie à courir.
Un beau workout.
Ouais, il y a du but beau jus de bras là-dedans. Là.
C'est clair.
Ouais. Puis après ça, ben c'est sûr qu'il y a un bon repas là, avec tout le monde qu'on fait sur le poêle à bois. On n'a pas d'électricité dans la forêt. Puis avec une petite cire d'érable, là, avec un café à l'eau d'érable, là, c'est toujours le fun.
Ouais, vraiment, ouais. Puis justement, j'ai vu passer aujourd'hui que vous allez être dans le quartier Saint-Sauveur le 1er avril, je crois bien.
Oui, exactement. C'est un événement qui est organisé par la SDC Saint-Sauveur en collaboration avec J'aime Événements. Puis on va avoir notre cabane à sucre en ville. On déplace des fois la cabane à sucre en ville vu qu'on est dans le quartier Saint-Sauveur. On aime aussi sensibiliser les gens là, à la sériculture plus traditionnelle aussi. Donc on a des cabanes à sucre dans des écoles, des organismes communautaires. Puis avec la SDC, c'est au Parc Brochet le 1er avril. Il va avoir Tir sur la neige, il va avoir Bosco Baker avec Margaret Tracteur en musique, il va avoir des restaurants comme Tumi, Griendel qui vont être sur place à servir de la bouffe de cabane à sucre. Puis la bouffe va être là aussi avec nos beaux champignons puis nos produits issus de l'univers des champignons.
Puis ça, c'est un événement qui est gratuit, j'imagine?
Oui, c'est gratuit, puis c'est ouvert à tous. Ça va être vraiment un événement là, familial avec dans le parc du Rocher. Là, on va avoir un beau moment dans notre quartier Saint-Sauveur.
Ouais, c'est vraiment un bel endroit pour faire ce genre d'événement-là. Là. Ce parc-là, il y a plein de places, puis il y a tellement de familles dans Saint-Sauveur. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde. Là.
Oui.
Puis vous, donc là, ben ça a commencé. Vous avez entaillé déjà?
Non, on n'a pas encore entaillé. Ben, okay. On refait nos pannes à l'érablière. On avait des pannes où on fait bouillir l'eau d'érable qui était à refaire. Puis ben là, c'est ça, là, on va commencer à entailler la semaine prochaine. On va avoir une plus petite saison, c'est sûr, mais en même temps, là-bas, la semaine passée, on a passé la semaine là-bas, il faisait moins 20 la nuit. Donc, il faisait trop froid, puis il y avait 4 pieds de neige dans la forêt, fait que c'est encore l'hiver là-bas.
Puis, vous pouvez penser que votre travail de jus de bras va s'étirer jusqu'à quand environ? Fin du mois d'avril? Mi-avril?
Ouais, mi-avril, 3e d'avril. Puis nous, après, on fait du sirop de bouleau jaune de merisé. Fait que ça étire un peu la saison des sucres. À ce moment-là, ben c'est plus vers la fin de la saison des sucres, là, les merisiers commencent à couler. Puis ben c'est ça, on va commencer ça. Fait que j'imagine que jusqu'à la fin avril, là, on devrait être là-bas à bouillir le poêle à bois puis à courir les érables et les merisiers.
Et à boire du réduit, du bon réduit.
Oui! Entre amis.
Entre amis. Ben merci beaucoup, Maude, d'être venue nous parler un peu de la sériculture à Chiz aujourd'hui.
Ça fait tellement plaisir, la voisine.
Ben, merci, puis on va envoyer
bon
tout le monde.
Oui,
bon printemps, qu'aujourd'hui, on se demande là, si ça va finir par arriver, mais normalement, le 1er avril, d'après moi, pour l'événement dans le parc du Rocher, là, ça devrait être bon.
Oui, ben oui, puis au plaisir de vous voir, puis de manger une bonne tour d'érable avec vous autres.
Ouais, ben merci, Maude.
Merci, Rosalie. Bonne journée.
Bye-bye.
Bye-bye.
Et nous, ben, on va écouter une chanson qui s'appelle « L'hiver est long chez vous » de Margaret Tracteur. Margaret Tracteur qui sera à cet événement dont on parlait là, au Parc du Rocher, cet événement Cabane à sucre.
Espoir en l'humanité, là où il y avait même... flatte comme un accident de chant.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Cheese qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et Aînés Solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Vous écoutez maintenant LSDJ7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
C'est le printemps à l'Impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du Petit Béliveau. Le 14 avril, c'est Lou Adrian Casti qui va t'impressionner avec sa présence scénique envoûtante. Viens voir Petit Béliveau et Lou-Adrien Cassidy les 13 et 14 avril à l'Impérial Belle. Billets en vente au impérialbelle.com.
Ici Rosalie Bocage, vous écoutez encore Chérie, j'arrive jusqu'à 17h30. Et puis, pendant ce bloc publicitaire et ses chansons, est arrivé en studio avec moi, Alex qui vient nous parler, faire sa chronique littéraire. Bonjour Alex, ça va bien?
Très bien, et toi Rosalie?
Ben oui, je suis très contente de te recevoir encore une fois cette semaine.
Oui, pareillement. Et cette semaine, j'ai décidé de venir vous parler du monde universitaire parce que, bon, on le sait actuellement, ça ne va pas bien à l'Université Laval. Les professeurs sont déjà en grève depuis plusieurs semaines et on ne voit toujours pas de résolution du conflit à l'horizon. Mais je me suis dit, bon, allons-y avec un petit peu d'espoir, avec des ouvrages qui parlent un petit peu du milieu universitaire pour permettre aux gens de lire sur le sujet, mais de manière plus légère.
De manière plus légère. Donc, le premier livre dont tu aimerais nous parler s'appelle « Synthèse de l'hétérogène, mélange offert à Micheline Cambron ».
Oui, le titre peut avoir l'air un petit peu exotique et aussi hermétique, mais c'est un ouvrage qui est tout sauf hermétique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des mélanges offerts à Micheline Cambron. Micheline Cambron, professeure de littérature à l'Université de Montréal pendant de nombreuses années, pionnière du milieu des études littéraires, de l'histoire culturelle du Québec. Et comme c'est souvent le cas, quand un professeur qui a eu, et un chercheur qui a eu un impact significatif dans sa discipline prend sa retraite, eh bien, ses anciens étudiants, les chercheurs qui l'ont suivi dans le domaine décident de se rassembler pour lui rendre hommage et faire un colloque sur ses objets d'études. Et lorsqu'on est chanceux, eh bien, ça donne un collectif qui permet de donner vie à ces... Enfin, pas de donner vie, mais plutôt d'assurer une postérité à ces échanges qui ont eu lieu en hommage à cette personne. Et c'est ce que nous propose Synthèse de l'hétérogène, mélange offert à Micheline Cambron.
Intéressant. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs voix là-dedans qu'on peut entendre. Justement, peut-être c'est pour ça aussi que c'est pas hermétique.
Exact. Si on parle de l'hétérogène, c'est parce que, bon, ben, on parle de la vie culturelle du Québec du 19e, du 20e siècle. Et, ben, c'est particulièrement riche, particulièrement fécond et très différent ce qu'on trouve dans cette vie culturelle-là. Donc, chacune des contributions de l'ouvrage se lie indépendamment les unes des autres et permet d'ouvrir une fenêtre sur cet univers culturel-là. Je vais te parler de quelques-uns des textes pour donner une idée de l'ouvrage, et notamment le texte d'Alex Gagnon sur le chemin de fer dans la littérature au début du 19e siècle. Un texte qui s'intitule « L'élan de la vapeur, lire le chemin de fer au Bas-Canada, 1830-1854. » Et sous ce titre, qui a l'air peut-être un petit peu mystérieux, eh bien, ce dont nous parle Alex Gagnon, c'est de comment le chemin de fer s'impose dans la littérature, s'impose aussi dans l'imaginaire collectif, et comment est-ce que ça devient un sujet. Au Québec, le premier chemin de fer, c'est Montréal, en fait, c'est la colle Saint-Jean-sur-Richelieu, si je ne m'abuse. Donc, juste au sud de Montréal, on est au début des années 1830, et ben le chemin de fer fait son apparition ici, mais on en a déjà entendu parler dans la presse, entre autres, et dans la littérature depuis un certain temps, et on continue à en entendre parler au cours de cette époque-là. Comment est-ce qu'on en parle? C'est ce dont nous parle Alex Gagnon dans son texte. Eh bien, on fait découvrir le médium, le moyen de transport plutôt au lecteur, de manière inconsciente, mais ce qu'on leur dit, c'est ben voici ce qu'est un train, voici ce qu'est le chemin de fer, voici comment se comporter dans un train quand on prend le train, puis voici ben comment est-ce que ça s'implante dans le territoire. Donc c'est toute une littérature qui inclut le train, qui inclut cette nouveauté-là, qui oui, on présente des scènes européennes, on présente des scènes américaines, mais ce faisant, on ouvre quand même la fenêtre des Canadiens de l'époque au chemin de fer, à cette nouveauté technologique.
Qui va peut-être prendre plus de place.
Oh que oui.
Et finalement, en prendre aussi moins, parce que ça s'est pas beaucoup développé, là, finalement. C'est pas
ben,
notre
oui
plus
et non.
moyen de transport ben, pour les passagers, là, disons. Mm-hmm.
Ouais. Ben, ça s'est beaucoup développé, mais ça a connu un déclin par la suite.
Ouais.
Quand on regarde dans les années 1940-50, les gens de la côte de Beaupré venaient faire leur commission à Québec en train. Même chose dans mm-hmm. le coin des Rimouski, les gens qui habitaient dans les villages environnants ben, prenaient le train en avant-midi, allaient faire leur commission au centre-ville, revenaient par la suite chez eux. Donc vraiment, le train avait un rôle structurant au Québec, puis ben, pouf, arrivent les années 1960, la glorieuse époque de la voiture, et la voiture, c'est la liberté, contrairement au train, et donc, tranquillement, on va changer les voies ferrées en pistes cyclables, mais ça nous amène un peu plus loin de la contribution d'Alex Gagnon dans cet ouvrage.
oui, et est-ce qu'il y a un autre texte dont tu aimerais nous parler de
cet ouvrage? Oui, celui de Sophie Dubois, entre autres, qui nous parle du roman « Une de perdue, deux de retrouvée » de Boucher de Boucherville, qui est un de nos anciens premiers ministre. Elle titre son texte « Une de perdue, deux de trouver le paradoxe du populaire ». Aujourd'hui, ce roman de Boucher de Boucherville est complètement inconnu de la plupart des gens. Ça fait partie des romans du 19e siècle qu'on a complètement oublié. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ce que fait Sophie Dubois dans ce texte-là, c'est qu'elle analyse comment le roman a connu une certaine popularité, puis est tombé dans l'oubli, avant de redevenir populaire, puis de retomber à nouveau dans l'oubli. Et c'est assez éclairant parce que, bon, ben, ce dont il se rend compte, c'est que au début, le roman était très, très populaire. C'est un roman d'aventure. Il y a des pirates, il y a des questions d'héritage. On s'en va à Cuba, en Louisiane. Oh, wow. Donc, pour un roman du 19e siècle, ça brasse, ça bouge. Il y a des prises d'otages. Donc, c'est vraiment un roman d'aventure avec presque cap et d'épée, avec vraiment des personnages qui sortent de l'imaginaire. Et c'est ce qui fait qu'à ses débuts, ben, ça va connaître énormément de succès. Les gens, ben, ça les fait voyager, ça les fait imaginer un autre univers. Ils trouvent ça tout à fait fascinant. Et donc, dans un premier temps, le roman va connaître beaucoup de succès. Puis, avec le temps qui passe, eh bien, le fait que ça soit populaire auprès de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde va devenir louche. Si Monsieur, Madame, Tout-le-monde aime ça, ben, ça doit pas être si bon que ça. Parce que ben ceux qui définissent ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce sont des critiques éclairées, des professeurs de littérature, des prêtres. Et donc, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que ceux qui font l'histoire de la littérature en disant, ben au 19e siècle, il y a eu tel livre qui a été écrit, il y a eu tel livre qui a été écrit, ça c'est bon, ça c'est pas bon, eh bien, tranquillement, ces gens-là vont mettre de côté Une de perdue, deux de trouvée. Et ils vont également mettre de côté tout plein d'autres ouvrages qui ont été jugés populaires à l'époque, parce que, bon, à l'époque où ils le font, ils trouvent ça trop grivois, trop populaire, trop près des gens, et ils vont plutôt mettre de l'avant des ouvrages plus académiques, plus recherchés, un petit peu plus obscurs. Et donc, c'est intéressant de voir comment ben, le fait d'être populaire ben, nous amène à... C'est ça, amène ceux qui font la littérature à mettre de côté des textes.
Mm-hmm.
Et bien, en lisant la contribution de Sophie Dubois, ça m'a amené à me poser bien des questions, puis à me dire, ben, est-ce que, bon, ben, J.K. Rowling, Mark Levy et compagnie, que le milieu littéraire snob en disant, ben, il faut plutôt privilégier les auteurs québécois, les auteurs de poésie, les auteurs de romans d'avant-garde, ces auteurs-là, justement, qui sont plus connus, comme une Louise Tremblay-Desciambes, qui est très connue pour ses romans historiques, qui est une des plus grosses vendeuses au Québec, mais qui est systématiquement snobée dans les salons du livre. Est-ce que, bon, ces gens-là, on les snobe pas un peu à tort parce qu'ils sont populaires? Est-ce que c'est pas un peu de la jalousie? Et est-ce que plus tard, ils vont finalement être capables de réintégrer l'histoire de la littérature ou ils vont constamment être mis en marge du fait qu'ils sont populaires? Donc, un texte qui permet vraiment de se poser des questions sur notre rapport à la littérature.
C'est intéressant pour avoir étudié en lettres. C'était un débat qui était là même quand j'étais... T'sais, c'est très présent de comme... Est-ce qu'on inclut ces œuvres-là aussi dans les corpus universitaires? Tout ce qui est J.K. Rowling, justement. Ouais.
Et donc, synthèse de l'hétérogène, mélange offert à Micheline Cambron, c'est le texte d'Alex Gagnon, c'est le texte de Sophie Dubois, mais c'est aussi toute une série d'autres textes qui nous parlent, bon, de la Grande Guerre dans les almanachs illustrés québécois, de critique d'art, de la littérature québécoise à la théorie du colonialisme d'occupation, du théâtre de Gratien Gélinas, et ainsi de suite. Puis bon, comme tout bon hommage à un pionnier de son domaine de recherche, eh bien, on a aussi des textes qui nous permettent d'en savoir plus sur Micheline Cambron, notamment un qui paraît être fait par son conjoint, ses trois enfants, qui nous permettent de savoir le genre de lectrice qu'elle est, le genre de chercheuse qu'elle est, comment elle est dans l'espace privé, qui est assez sympathique et qui nous permet de découvrir la femme derrière la chercheuse.
Très intéressant. Et donc, ton deuxième livre, Pour l'avancement des sciences, Histoire de l'ACFAS, 1923 à 2023.
Oui, l'ACFAS, c'est quelque chose qui est assez connu dans le milieu scientifique, dans le milieu universitaire, mais qui, de monsieur, madame, tout le monde, est assez obscur. Qu'est-ce que c'est l'ACFAS? Eh bien, c'est simple, c'est l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, ACFAS. Aujourd'hui, bon, le nom a changé parce qu'il a voulu se rajeunir et que, bon, on ne parle plus tant, effectivement, de canadiens-français comme on le faisait à l'époque. Mais c'est une association qui est fondée en 1923, la huitième association scientifique de ce genre au monde, pour rassembler des chercheurs canadiens-français ensemble pour réfléchir sur le savoir, réfléchir sur leur scientifique et être capable de s'entraider, être capable de se stimuler. Et donc, c'est vraiment une association qui fête son centième anniversaire cette année. Et pour cette occasion, Yves Gingras, professeur d'histoire des sciences bien connu de l'Université du Québec à Montréal, a décidé d'écrire un ouvrage sur le sujet. L'ouvrage n'est pas complètement neuf, puisqu'il avait été publié une première fois en 1993 pour les 70 ans de l'ACFAS. Mais à l'époque, on lui avait demandé « Est-ce que tu accepterais, toi qui es un historien des sciences, d'écrire un ouvrage sur l'histoire de notre association? » Ce qu'il avait accepté. Et à nouveau, 30 ans plus tard, on lui a demandé « Est-ce que tu accepterais de mettre ton ouvrage à jour, de couvrir les 30 dernières années, mais aussi bon de profiter des 30 dernières années de recherche qu'il y a eu pour revoir ce que tu as fait, le pousser plus loin? » Et donc, ça nous donne un ouvrage sur les 100 ans de l'ACFAS 1923-2023.
Intéressant. Puis ça s'adresse à quel genre de lecteur, ça?
Ça s'adresse à tout le monde. Je dirais oui, certes, les gens du monde académique vont trouver ça sympathique d'en connaître plus sur leur association. Parce que, bon, l'ACFAS, c'est une association qui est bien connue dans le milieu scientifique parce qu'elle tient un grand congrès à chaque mois de mai qui rassemble des milliers de chercheurs. Là. C'est vraiment un très, très gros congrès. Il y a plein de colloques dans le congrès. Ça se fait sur plusieurs jours. Mais si vous vous intéressez à l'histoire des sciences, l'histoire de l'éducation, l'histoire aussi du nationalisme canadien-français, vous allez y trouver votre compte. La plume d'Yves Gingras est facile à lire, c'est simple. Et le texte est, contrairement à beaucoup d'ouvrages qui célèbrent un anniversaire, n'est pas chronologique, mais il est plutôt thématique. Souvent, un ouvrage typique pour un anniversaire, c'est genre les 20 premières années, ensuite la consolidation, puis bon après mettons il y a les 30 années qui suivent qui sont les périodes de doute, puis là finalement un nouveau départ, tu sais, on a toujours un peu cette trame là. Or, Yves Gingras a plutôt décidé d'y aller par les missions de l'ACFAS. Donc, après un premier chapitre qui permet de vraiment de démarrer l'ACFAS puis de comprendre ce que c'est puis comment est-ce que ça se met sur pied, on a un chapitre sur la promotion de la culture scientifique, tout ce que fait l'ACFAS de ce côté-là, les prix qu'elle donne, les conférences qu'elle offre. Puis, troisième chapitre, la promotion de la recherche scientifique, les bourses qui sont données, les subventions de recherche. Chapitre suivant, la formation d'une communauté scientifique. Donc vraiment, comment les annales de l'ACFAS, donc des actes de colloque, vont nous permettre de structurer le tout. Comment certains prix, certaines médailles vont permettre aussi de créer une reconnaissance. La place que les femmes vont prendre, qui va être de plus en plus importante aussi à l'ACFAS. Puis les deux derniers chapitres, l'ACFAS sur la place publique. Donc la place que prennent ces chercheurs-là dans les journaux, dans l'espace public, leur lien avec le politique, notamment l'Union nationale, leur lien avec leur participation à des commissions royales d'enquête ou à différentes associations de la vie civile. Et le dernier chapitre, les raisons d'être de l'ACFAS, donc un chapitre qui est plus conclusif. Bon, conclusif, ça n'existe pas vraiment, mais qui permet de conclure et qui fait le bilan sur les crises qu'a connues l'ACFAS et comment ça s'est toujours redéployé. Notamment les changements qu'il y a eu. On pense notamment à l'idée de créer une association québécoise pour le savoir scientifique. Au Canada français et au Québec, il y a beaucoup de choses qui étaient canadiennes françaises dans la première moitié du 20e siècle. Et dans les années 60-70, elles vont devenir québécoises parce qu'on va moins se reconnaître dans cette idée-là d'un Canada français qui va vers les États-Unis, qui va en Acadie, qui va aussi en Alberta, en Ontario français. Et il y a une volonté des chercheurs de l'ACFAS de dire on va embrasser ce changement-là que connaît la société et devenir une association québécoise pour le savoir. Mais les chercheurs vont plutôt décider de s'inscrire à l'encontre de la société de leur temps en décidant de maintenir ces liens-là avec l'Acadie, l'Ontario français, le reste du Canada. Et donc, ça donne une association qui, plutôt que de se refermer sur le Québec, comme l'ont fait beaucoup de groupes de la société civile dans les années 70, 80, a continué à s'inscrire dans une francophonie plus large nord-américaine et qui, aujourd'hui, justement, est capable de profiter de liens avec l'Acadie, l'Alberta, l'Ontario français, etc.
C'est très juste. C'est une bonne idée d'avoir gardé ce nom-là, finalement.
Ouais.
Et puis, notre troisième livre, notre troisième choix cette semaine, c'est « Les diplômés universitaires ». Perspectives socio-économiques.
Oui, on parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. On parle beaucoup aussi de la surqualification des gens. Eh bien, ce que nous proposent les chercheurs qui ont participé à cet ouvrage, eh bien, c'est un ouvrage qui nous permet de voir quelles sont les perspectives d'avenir des diplômés universitaires. Est-ce qu'ils sont... Puis aussi de voir qui sont les diplômés universitaires. Est-ce qu'on a plus de chance d'être diplômé universitaire si ses parents étaient eux-mêmes diplômés universitaires? La réponse est bien entendu oui. On voit l'évolution aussi des diplômés universitaires, alors qu'avant, ils étaient principalement masculins. Depuis quelques années, ce sont de plus en plus des femmes qui sont diplômées universitaires. Un texte que j'ai trouvé particulièrement intéressant, une des contributions, c'était celle sur l'insertion professionnelle des diplômés de doctorat, un texte de Marceline Bengali. Étant moi-même doctorant, plusieurs des questions que les doctorants se posent et qu'elles rapportent dans son texte, je me les suis posées. Souvent, on est conditionné à devenir professeur d'université quand on est un chercheur. On a de la misère à se percevoir en dehors du monde académique. Et alors qu'on a développé des compétences qui sont intéressantes et précieuses pour le marché du travail. Et donc, il y a un texte qui permet de voir qu'on n'est pas le seul, quand on fait un doctorat, à être un peu perdu, à s'être coupé du reste du milieu de l'emploi et que, malgré tout, l'insertion des diplômés de doctorat se fait quand même relativement bien dans le marché du travail. Donc, un texte qui intéressera les gens qui font un doctorat. Il y a d'autres textes, comme je disais, outre les déterminants sociaux, comme le fait d'être garçon, d'être fille, il y a aussi un texte sur les diplômés universitaires d'originaire du Maghreb et qu'est-ce qui fait qu'ils vont être embauchés ou pas, parce que, on le sait, il y a de la discrimination au nom, il y a de la discrimination aussi... quand on reçoit des CV, il y a plus de chances qu'une personne soit appelée si son nom sonne, c'est ça, canadien-français, mettons.
Ouais.
Donc, c'est un texte qui permet d'en savoir un petit peu plus sur cette réalité-là. Donc, 5 chapitres qui nous permettent de mieux connaître le marché du travail et les perspectives d'avenir des diplômés universitaires.
Ça, c'est bon pour tous les étudiants qui... Ça arrive, des petites crises, des petites crises de doute durant les passages à l'université là, sur ce qu'on va faire plus tard. Mais ça va être une bonne idée de lire ça. Les diplômés universitaires, perspectives socio-économiques sous la direction de Mircea Vulture.
Oui, ben je rappelle peut-être les autres titres. Outre les diplômés universitaires, on a parlé de Synthèse de l'hétérogène, mélange offert à Micheline Cambron, texte présenté, édité par Karine Sellard et Louise Frappier aux presses de l'Université de Montréal, et Pour l'avancement des sciences, histoire de l'ACFAS 1923-2023, du chercheur Yves Gingras, publié chez Boréal.
Ben, merci beaucoup, Alex Tremblay-Lamarche, pour cette chronique culturelle, littéraire. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine, jeudi prochain.
Avec grand plaisir, Rosalie.
Avec plaisir. Ben, merci à toi. Et nous, ben, on va aller en musique avant de terminer cette émission. On va écouter Yukon, un titre de Bonanza paru sur l'album Prince Limonade.
Viens mon maître, je sur la pizza puis des pickles. Tu peux coucher sur mon sofa. Tu peux sleeper in a dopa. Yeah, mon motel. T'as pas d'esprit. Jamais t'es mêlé, je vais t'aider à tes plans. Si t'as quelque chose à dire, puis ça plaît sur ton cœur, je suis prête à l'entendre. Viens à mon motel, j'ai la pizza et des bagels. Tu peux coucher sur mon sofa, tu peux sleeper. Ça va pas bien. Y'a des portes qui restent barrées. Des cendres qui soufflent. Y'a des TV qui jouent fort. Du monde qui s'engueule. Du monde qui prennent des wake-up calls. Juste pour pas se réveiller seul. Ils viennent au monde.
C'est sur cette chanson Motel 1755 des Hey Babies que se termine cette édition de Chérie J'arrive du jeudi 23 mars 2023. Avec vous, durant l'heure et demie, c'est moi, Rosalie Bocage, et j'étais très heureuse d'être là. Demain, ça va être Madame Demel qui va être de retour à l'émission. On a eu plein de belles personnes avec nous. On a eu un petit topo du Festival Regard. Je vous invite, si vous êtes dans la région de Chicoutimi, à aller voir ce festival qui se tient jusqu'au 26 mars. Et après, le 27 mars, il y aura une programmation qui va être disponible en ligne pour la modique somme de 45 $, je crois. Nous avons aussi eu Jordan en entrevue à 16h30 et Jordan sera en spectacle, je rappelle, en plateau double avec Nicolas Gilmy demain soir au Pantoum. Allez-y, il reste encore des billets. Nous avons eu Maud qui nous a parlé d'acériculture parce que oui, hein, faut pas oublier, l'agriculture, ça fait aussi partie de la culture. Et pour terminer, on avait Alex Tremblay Lamarche qui est venu nous chroniquer littérature sous le thème d'ouvrages de personnes dans le milieu universitaire pour faire un petit rappel à la grève des profs qui se passe présentement à l'Université Laval. J'étais très contente d'être avec vous. Je vous dis à jeudi prochain.
La semaine prochaine c'est good. Désolé j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Hey what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM. Personnellement je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, les Architectes du son.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheez a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'allonger seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Et au Québec, c'est Thierry Larose.
Tout devient tellement précieux quand il y en
Mon nouvel album Sprint est maintenant disponible en magasin et sur toutes les plateformes d'écoute.
Je le croirais quand je la verrai. Est-ce que tu sens ton cœur battre dans ta boîte?
Passe d'abord, c'est bien fait. Va tirer le ballon.